Et bonsoir à tous. Hey, you know what? Bienvenue au nouveau chemin de la connaissance pour le dernier moment, la dernière étape de cette traversée de Baudelaire en compagnie du philosophe Jacques Dariula. Bonsoir Jacques Dariula.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue donc pour cette dernière sur Baudelaire. En matière de peinture et de statuaire, dit Baudelaire, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, est celui-ci. Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu, donc écrit Baudelaire, en se faisant ici le porte-parole des imbéciles. Un dieu vengeur, dit-il, pour continuer à exaucer les vœux de cette multitude, daguerre fut son messie, et alors elle se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, il croit cela les insensés, alors l'art, c'est la photographie. C'est dire que Baudelaire déteste la photographie, Jacques Dariula, ou c'est plus compliqué que ça?
Il déteste la photographie de son temps. Le texte du Salon de 59 est sans ambiguïté aucune. De même qu'il déteste l'art d'un maissonnier, par exemple, qui est une certaine forme du réalisme. C'est-à-dire une reproduction méticuleuse du détail, sans que l'image ne soit composée ou du moins pensée par un regard poétique. Les mots ne sont peut-être pas très très justes. À vrai dire, il est difficile de traiter ce thème parce qu'il y a une ambiguïté en fait chez Baudelaire. Par exemple, la critique ici de la photographie, il faudra rappeler, nous le ferons peut-être tout à l'heure, qu'il s'agit d'une certaine photographie. La critique de la photographie pourrait être prise pour une critique du réalisme. Mais le réalisme est une notion dont il est extrêmement difficile de saisir le sens véritable. Par exemple, cela n'empêche pas Baudelaire d'être un ami de Courbet, pendant un certain temps, dans sa jeunesse surtout, et Courbet de placer Baudelaire dans l'allégorie réelle, comme il disait, de son atelier. Le réalisme de Courbet est un réalisme puissant qui dit quelque chose du réel et de l'effet de présence du monde.
Alors la critique du réalisme consiste en quoi? Parce qu'effectivement, cette critique du réalisme fait fond, enfin, est le fond de sa critique de la photographie. Finalement, la critique du réalisme, c'est sa critique de l'illusion qu'on peut, avec les mots ou avec un outil, reproduire le réel ou assigner cette tâche à l'art qui a mieux à faire.
C'est peut-être la critique, puisqu'on dispose ici d'un mot qui vaut aussi bien pour le langage, pour l'image et pour la photographie. C'est la critique du réalisme, je crois que c'est la critique du cliché. C'est-à-dire c'est la platitude du lieu commun. Le réalisme reproduit ce que ceux qui n'ont jamais éprouvé l'inquiétude de l'hyper-réel prennent pour réel. Donc c'est un certain aveuglement. La photographie, du moins quand elle est plate, quand elle est faite sans génie, Baudelaire était l'ami, c'était son ancien condisciple de Louis le Grand, amitié très complexe, leur relation était tumultueuse, mais du plus grand photographe de son temps,
Nadar.
Félix Nadar, qui a fait d'admirables photographies.
Dont de Baudelaire.
De Baudelaire, oui, beaucoup de portraits, les photographies de Baudelaire, pour tous les amoureux de Baudelaire, sont des images toujours aussi fortes et émouvantes. Ce ne sont pas des clichés, justement. Donc, la position de Baudelaire vis-à-vis de la photographie est ambiguë, puisque, comme le réalisme, où je pense par exemple à ce texte à propos de où il s'insurge, après avoir lu Madame Bovary avoir eu le sentiment, comme tous les grands poètes, enfin, il a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un extraordinaire chef-d'œuvre, et il écrit à Flaubert en s'insurgeant contre ceux qui disent que Baudelaire fait un art réaliste. Alors qu'il y a incontestablement un réalisme de Flaubert, mais à coup sûr, ce n'est pas celui de Meissonnier. Ça n'est pas non plus celui des portraits conventionnels.
Ni même des frères Goncourt, d'ailleurs.
Ni même des frères Goncourt, oui. Qui est un réalisme très lettré, très, très phraseur, très rhétorique, finalement. Ce qui n'est pas le cas, bien que Dieu sait que le style est une préoccupation essentielle de Flaubert. Mais il y a une brutalité du réel chez Flaubert, alors terrifiante, qui culmine dans la scène de la mort
de Charles Bovary.
D'Emma.
Ah, d'Emma, oui, parce que la mort de Charles elle-même est d'une grande brutalité. Il meurt comme ça, oui. Elle le pousse et il est mort, sa petite fille. À la fin de Madame Bovary. Mais enfin bon, on ne parle pas de Flaubert ici, ouais. Mais il y a brutalité chez Flaubert, effectivement.
Oui. Donc il y a, si l'on veut, peut-être un réalisme qui saisit le réel sous un jour inhabituel et qui n'est pas sans rapport avec l'expérience poétique. Et puis il y a le cliché narcissique, comme il dit, puisqu'il parle de tous ces narcisses qui se sont précipités.
Oui, ça c'est formidable, voilà. Parce que le texte de Baudelaire, oui. Sur le, dans le salon de 1859, donc le, oui. Public moderne et la photographie, oui. Est un texte génial en ce qu'il est à la fois rétrograde, oui. Et prophétique. Rétrograde au sens où on pourrait dire que voilà un homme qui, tel Finkielkraut aujourd'hui, s'insurge évidemment devant les progrès de la technique et veut absolument dissocier la notion d'art de la notion de progrès, ce que nul ne songe à lui reprocher ici. Et alors il dit ceci, hein, à partir de ce moment, et on dirait qu'il fait notre portrait, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil.
Oui, triviale image. Le premier autoportrait de Courbet est rien moins que trivial. Il est fantastique, il est une révélation extraordinaire. Donc là, c'est un autoportrait qu'on peut dire réaliste. Un narcisse réaliste, mais un narcisse qui n'en revient pas de cette image qui surgit du fond du miroir. La triviale image, c'est l'image dans laquelle on croit pouvoir se reconnaître, donc rassurante. Et tous ces narcisses qui posent ces images donc sur la cheminée substituent des portraits des ancêtres dans les maisons des nobles pour des pauvres qui ne peuvent pas, enfin pour des classes incapables de s'offrir des œuvres d'une telle valeur. Triviale image parce qu'elle renvoie une image figée finalement, une image que l'on connaissait avant même que le cliché soit tiré. Une chose est très intrigante dans l'histoire de la photographie et... C'est au premier moment que se réfère le texte de Baudelaire, c'est l'immobilité de ces portraits. On venait se faire tirer le portrait dans des salons photographiques, il y en avait beaucoup à Paris. Ces salons, d'ailleurs, étaient souvent tenus par des peintres ratés, disait-on, reconvertis dans la photographie. On a fait allusion à Baudelaire, c'est le cas du fameux pèlerin.
D'ailleurs, Baudelaire lui-même dit, hein, comme oui, l'industrie photographique, voilà, était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués, exactement, ou trop paresseux pour achever leurs études. Cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais aussi avait la couleur d'une vengeance.
Exactement. Et dans l'éducation sentimentale de Flaubert, parce qu'on évoquait Flaubert tout à l'heure, le peintre pèlerin, après être passé par tous les styles imaginables, eh bien, finit donc photographe à Paris. Et en quel sens étaient-ils des peintres manqués ? Ils étaient des peintres manqués dans la mesure où, devenus photographes, ils continuaient ce qui était manqué dans leur peinture par la photographie. On s'imagine souvent que cette immobilité des poses du 19e siècle, enfin du milieu du 19e siècle, qui était d'ailleurs accentuée puisqu'il y avait des supports de fer sur lesquels on pouvait poser la nuque ou poser le bras pour tenir l'immobilité de la pose devant le photographe, couvert de son voile noir pendant deux minutes, disons, ce qui est un temps assez long quand il faut tenir absolument une pose et qu'en plus le photographe vous demandait de ne pas fermer les yeux, donc d'où ces regards un peu écarquillés ou fascinés qui fixent l'objectif comme un œil inhumain. Le photographe exigeait du modèle cette immobilité de la pose. Or, techniquement, l'immobilité de la pose n'est pas nécessaire. La plaque au collodion, dès le milieu du 19e siècle, permet de prendre... au tiers de seconde, et même moins encore. Donc, on avait déjà des instantanés. Les portraits si vivants, si forts de Nadar montrent que l'instantané était possible. C'était donc le peintre, amoureux des images sages et immobiles, c'est-à-dire des clichés, des lieux communs, c'était le peintre qui transformait son modèle, le pétrifiait en une image immobile pour pouvoir ainsi transposer cette image déjà picturalisée, pour ainsi dire, transformée en cliché de tableau, le transposer simplement sur la photographie.
Mais est-ce que Baudelaire n'accomplit pas cette opération quand il fait dans ce poème La Beauté, il commence en « Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre ». Est-ce qu'il ne pétrifie pas lui-même d'ailleurs son objet ? D'ailleurs, est-ce que ça n'est pas de tous ses poèmes le plus pétrificateur, le plus immobile, le plus figé de tous?
Mais je crois que ce poème, que l'on cite souvent comme un article du catéchisme esthétique de Baudelaire, est au contraire un poème de répudiation. Cette beauté, belle comme un rêve de pierre, c'est la beauté du néoclassicisme. C'est une beauté qui a tenté de faire revivre l'antique, une beauté pétrifiée et morte, à laquelle il faut précisément renoncer pour commencer l'esthétique de la modernité, puisque l'esthétique de la modernité n'est possible qu'à la condition de renoncer à l'imitation du modèle antique.
C'est dire l'ampleur du contresens sur ce texte, alors,
absolument.
Puisqu'on a toujours appris que ce texte était la figure même de la beauté pour Baudelaire.
Mais bien sûr que non. La figure de la beauté chez Baudelaire, à mon sens, c'est le saisissement aléatoire de la rencontre dans la foule mouvante des capitales par le croquis de M.G., qui est toujours nommé Monsieur Guy, Constantin Guy, le héros, ben, celui que Baudelaire appelle le peintre de la vie moderne. Guy n'immobilise jamais ses modèles, il ne cherche jamais à faire revivre une beauté pétrifiée et figée est définitivement morte aujourd'hui, puisque le néoclassicisme a montré l'impossibilité de faire revivre ce qui était vivant dans la beauté antique. Non, c'est en ayant renoncé à cette beauté de pierre que nous pouvons, sur l'éternel, le transitoire et le fugitif, qui est la vérité d'un monde voué à l'immanence, notre monde désormais, prélever le trait et la forme que l'alchimie poétique pourra porter dans l'éternité.
Arrière la muse académique, dit Baudelaire.
Arrière la muse académique, je n'ai que faire de cette vieille bégueule. J'invoque la muse familière, la citadine, la vivante, pour qu'elle m'aide à chanter les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés, ceux-là que chacun écarte comme pestiférés et pouilleux, excepté le pauvre dont ils sont les associés, et le poète qui les regarde d'un œil fraternel. Fille du chien bellâtre, de ce fat quadrupède, danois, King Charles, Carlin ou Gredin, si enchanté de lui-même qu'il s'élance indiscrètement dans les jambes ou sur les genoux du visiteur comme s'il était sûr de plaire, turbulent comme un enfant, sot comme une lorette, quelquefois hargneux et insolent comme un domestique, fille surtout de ces serpents à quatre pattes, frissonnants et désœuvrés, qu'on nomme levrettes, et qui ne logent même pas dans leur museau pointu assez de flair pour suivre la piste d'un ami, ni dans leur tête aplatie assez d'intelligence pour jouer au domino. À la niche, tous ces fatigants parasites, qu'ils retournent à leur niche soyeuse et capitonnée. Je chante le chien crotté, le chien pauvre, le chien sans domicile, le chien flâneur, le chien saltimbanque, le chien dont l'instinct comme celui du pauvre, du bohémien et de l'histrion est merveilleusement aiguillonné par la nécessité. Cette si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences. Je chante les chiens calamiteux, soit ceux qui errent, solitaires, dans les ravines sinueuses des immenses villes, soit ceux qui ont dit à l'homme abandonné, avec des yeux clignotants et spirituels, « Prends-moi avec toi, et de nos deux misères nous ferons peut-être une espèce de bonheur. »
Peut-être une espèce de bonheur avec deux misères, la misère du poète et celle de la muse véritable, celle des chiens calamiteux. En somme, Baudelaire donc se moque de l'académisme, on l'a vu, hein, on en a parlé, hein, d'un peintre comme David préfère les croquis de Daumier, et puis surtout il se moque derrière ça de la muse académique pour donner la forme la plus classique qui soit à la muse la plus triviale qui soit. Jacques Dariula.
Celle des chiens crottés. Ce texte magnifique me fait penser aussi à certaines notes de Pauvre Belgique.
C'est pas son meilleur texte, Pauvre Belgique, mais bon.
C'est un texte terrible, le poète. Alors là, il est seul.
Il faut rappeler que Baudelaire est l'inventeur du racisme anti-belge.
Oui, alors ça, effectivement. Mais son désespoir lui fait dire de beaucoup de bêtises sur les femmes aussi. Il faut le pardonner en pensant à sa douleur. Mais lorsqu'il dit que en Belgique, les passants ne comprennent pas qu'il faut s'écarter quand on avance, si bien qu'il est en Belgique, mais c'est lui-même, parce qu'il est complètement désemparé, il a perdu tout repère, il navigue à vue, pour ainsi dire, et il se choque dans le mouvement brownien de la foule, et il est comme ces chiens crottés qui doivent se préserver de toutes les jambes des passants, il est lui-même perdu. Affolé dans une foule comme un chien perdu. Bien. Mais oui, alors effectivement, cette muse crottée qui chasse la bégueule de la muse académique, qui est la muse momifiée, pétrifiée par l'idéal antique.
La froide majesté de la femme stérile.
Alors, qui est justement le cliché que le mauvais photographe projette et avec lequel il fige et tue. C'était une image très... très fréquente à l'époque de comparer, à cause précisément de ces longueurs de pause, l'atelier du photographe à une chambre de torture. Il y avait aussi tous ces supports en métal, comme des pointes sur lesquelles, enfin, c'était des longs fils de fer, si vous voulez, qui ressemblaient presque à une machine pour torturer. C'était une sorte de support pour les mains, pour la nuque. Et la prise de la photographie à une mise à mort. C'est un thème qui revient sans cesse, alors que on est sensible à ce qu'a d'étonnant une photographie, alors que nos yeux aujourd'hui ils sont si habitués que nous en avons perdu peut-être l'étrange poésie.
Mais en somme, ce que Baudelaire désigne là, c'est un phénomène qu'on peut comprendre de façon immanente, moderne, assez simplement. C'est la différence qu'il y a entre cette photo remarquable, par exemple, de cette jeune Afghane qui illustre tous les portraits qui touchent à l'Afghanistan ou à la détresse humaine d'ailleurs. Avec des yeux fabuleux. Le nom bleu. Du photographe m'échappe maintenant, il faudrait lui rendre hommage, on le fera une autre fois, mais cette photo merveilleuse qui est donc prise sur le vif, effectivement, mais qui, prise sur le vif, restitue la vivacité d'un regard. Et de l'autre côté, par exemple, Cécilia Sarkozy, qui, mécontente des unes sans maquillage qu'on lui inflige dans plein de magazines impitoyables, fait des photos léchées et de complaisance en une de Elle ou de Paris Match, pour cette fois-ci justement corriger cette image, et donc va dans le sens d'une beauté mortelle comme un rêve de pierre. Donc, ce qu'il décrit là, c'est la différence qu'il y aurait entre la noblesse d'un photoreportage, par exemple, et l'inanité d'une photo retravaillée, aujourd'hui.
En effet, c'est-à-dire que tout est paradoxal dans Baudelaire, tellement ça... pour la réflexion sur la photographie comme pour le reste, tant sa pensée est riche. C'est-à-dire qu'il y a en apparence cette condamnation de la photographie qui est la condamnation d'une certaine photographie, celle de l'immobilisation fantastique et de la pétrification. La photographie tue dans la mesure où la pose, avant même que la prise de vue ait été faite, tue déjà le sujet. Cela dit, il y a une poésie funèbre dans cette immobilité, dans cette relique d'une figure immobile qui demeure dans l'album de la mémoire familiale. Cette poésie, c'est celle de l'image souvenir, de l'image relique que l'ouvrage de Roland Barthes, La Chambre claire, a su parfaitement dire à travers précisément l'image de la mère morte qui demeure dans cette immobilité, dans cette serre, dans ce jardin d'hiver, cette image bouleversante qui est à l'origine de l'essai de Barthes. Alors que Baudelaire, qui veut une esthétique de la modernité, donc qui s'ancre dans le transitoire, le fugitif et le contingent, refuse cette relique du souvenir figé, immobilisé.
Ce qu'il appelle la bêtise de la beauté. C'est là qu'on peut parler de bêtise de la beauté chez Baudelaire, cette beauté pétrifiée, figée, censément immortelle.
Je ne pense pas. Je crois que là, nous parlons de la pétrification néoclassique et qu'il projette, mais je crois qu'il manque peut-être quelque chose sur la poésie de la photographie de son temps. Mais nous verrons en quel sens il est un excellent photographe d'un autre côté, qu'il projette sur la première période, les premiers moments d'essai où la photographie n'avait, pour ainsi dire, pas encore pris conscience de sa possibilité. La bêtise de la beauté, c'est celle du regard du sphinx, du regard des chats. C'est ce poème où, en prose où il dit que pour regarder l'heure, il plonge ses yeux dans les yeux de sa maîtresse, la belle Féline, et qu'il y voit que c'est l'heure de l'éternité. Donc la bêtise de la beauté, c'est son insignifiance absolue.
Oui, c'est quand il parle des
chats. C'est qu'elle est pure présence.
Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.
Oui, mais ce regard insondable du sphinx, le sphinx est bête parce qu'il n'a rien à dire. Il est d'ailleurs si présent parce qu'il ne parle pas et qu'il n'est qu'une présence physique.
Vous avez parlé hier de la beauté comme d'un hiéroglyphe.
Oui. Un hiéroglyphe indéchiffrable. Le trait de la forme saisie sur le mouvement de l'informe, sur la métamorphose du monde, mais un hiéroglyphe dont nous ne connaîtrons jamais le sens. À propos de Baudelaire, de Delacroix, Baudelaire disait que dans un carnet d'esquisses, Delacroix se constituait une sorte de dictionnaire, qu'il tirait de la nature une dictionnaire de forme. Ce dictionnaire est fait de caractères ou d'hiéroglyphes, mais ça ne fait jamais un texte. Ce sont des rencontres saisissantes dans l'informe et le mouvement du monde. Mais revenons peut-être à la photographie. Et Laissons la bêtise de la beauté ou son insignifiance si profonde. C'est encore autre chose, mais c'est aussi, si l'on veut, en ce sens, on peut dire que, effectivement, les photographies immobiles de la première période, celles qui figent dans la pose et qui demeurent comme une espèce de relique de l'au-delà, comme si la personne était déjà morte, une sorte de trace du corps momifié dans le souvenir de la famille, que ses regards figés et ses yeux souvent trop ouverts, parce que le photographe leur a dit de ne pas baisser les paupières, ont quelque chose de la beauté du sphinx. Et qu'il y a là une poésie de ces photographies à laquelle personnellement je suis très sensible. Je trouve magnifiques ces portraits du milieu du 19e siècle. On a l'impression que il s'endimanche, le modèle est endimanché, c'est quand même une certaine cérémonie, c'est tout un cérémonial, un rituel de passer devant le photographe, et il pose devant cet objectif exactement comme devant le tribunal du jugement dernier, et ce qui donne une grandeur. Mais ceci est un commentaire personnel, et Baudelaire, lui, refuse, n'accepte pas cette esthétique de la pétrification et de l'immobilité.
Il préfère l'image variée de la beauté interlope, comme il dit.
Oui, l'épaule de Messaline miroitant sous le gaz, comme il dit dans Le peintre de la vie moderne, l'éclairage au gaz créant cette espèce de maquillage au sein de laquelle les ombres et les lumières vont paraître en contraste, et le trait de l'empreinte peut être saisi. Donc c'est un contour, le trait d'une épaule illuminée par l'éclairage au gaz. Gaz, c'est une prostituée qui est une marcheuse, comme on disait à l'époque, et qui est saisie dans son phare, dans son grimage, dans le théâtre artificiel du désir et de la capitale. Et c'est un instantané. Donc il y a, ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans l'éloge que Baudelaire fait de l'art de ce dessinateur, il n'a jamais peint de tableau à l'huile, c'est un dessinateur de dessins rehaussés à l'aquarelle, Constantin Guy, dessinateur de mode et surtout dessinateur reporter, c'est très important, c'est-à-dire qu'il joue le rôle du photographe. Ce sont des croquis pris sur le vif, de façon extrêmement rapide, ou bien des scènes de la vie parisienne sur le défilé, les fiacres, les femmes, les couples, tout ce spectacle incessant et fluctuant des rues parisiennes. Et ce sont aussi des reportages, puisque Constantin Guy était envoyé par les journaux, par exemple, pour la guerre de Crimée. Et la guerre de Crimée a joué un rôle très important dans la photographie, puisque c'est la première campagne militaire dont on a rapporté
les premiers photoreportages,
oui,
en fait.
Et c'est très important, parce que la photographie a donné, évidemment, de la guerre une image absolument non épique, tout à fait différente de ce que les peintres, dans leur composition pompiers, donnaient de la guerre. Donc ça a été un moment tout à fait fondamental dans la représentation que nous faisons de la guerre. Mais Guy était envoyé à Sébastopol, il croquait l'arrivée des troupes, le transport des canons, il envoyait ses dessins au journal, et on publiait ses dessins, et on les a publiés jusqu'à ce que la technique de l'héliogravure permette de reproduire par points les photographies. C'est-à-dire que le croquis de Guy est véritablement l'ancêtre de la photographie, mais non pas là d'une photographie figée dans le temple de mémoire, cette photographie que refuse Baudelaire, mais comme la photographie reportage, qui sera effectivement la seconde école de la photographie, avec les agences, comme l'agence Magnum, comme ce génie de l'instantané qui était Henri Cartier-Bresson, et on, bien souvent, dans Le peintre de la vie moderne, faisant l'éloge de l'art du croquis, de la saisie de l'instantané par le croquis très vif et l'œil enfantin, affamé de spectacle de Constantin Guy, de MG, comme il dit, tant le peintre devient anonyme et disparaît, englouti dans l'océan du visible. Au fond, il n'est plus qu'un pur récepteur d'impression. Eh bien, il me semble que l'on trouve là une véritable théorie de la photographie beaucoup plus moderne, effectivement, celle qui apparaîtra lorsque les photographes prendront conscience de l'extraordinaire puissance de leur appareil, alors qu'auparavant, ils photographiaient comme des peintres, ils ne photographiaient pas comme des photographes, si bien que, paradoxalement, et c'est pourquoi je disais c'est très ambigu, paradoxalement, il me semble qu'il y a une théorie de la photographie moderne, enfin, d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous sommes encore au-delà de l'instantané avec la photographie plasticienne, mais quoi qu'il en soit, tout se passe comme si Baudelaire prévoyait
la photo-reportage, l'instantané pris sur le vif, à une époque où les photographes eux-mêmes ne savaient pas encore l'imaginer, même s'ils en avaient quasiment la possibilité technique.
Vous avez parlé d'un œil enfantin tout à l'heure. Peut-être est-ce aussi que, comme dit Baudelaire, hein, les enfants sont en général doués de la singulière faculté d'apercevoir, ou plutôt de créer, et la précision est essentielle évidemment, puisque c'est la même affaire pour lui,
oui,
d'apercevoir ou plutôt de créer sur la toile féconde des ténèbres, on en revient à la page noire dont on parlait toute cette semaine, tout un monde de visions bizarres. Et c'est à tel point d'ailleurs que dans les paradis artificiels, il continue en présentant l'opium ou le haschich comme autant d'artifices pour retrouver le vert paradis des amours enfantines. En somme, pour Baudelaire, Baudelaire reconnaît à l'enfant un double mérite. Non seulement l'enfant est plus proche de la nature, c'est-à-dire plus proche du mal, c'est-à-dire pour lui, c'est lui qui le dit, plus proche du péché originel, donc de ce point de vue, l'enfant est un expert en cruauté, une cruauté perdue, matinée par nos âges adultes et bourgeois, par l'embourgeoisement, mais également il reconnaît à l'enfant cette candeur donc qui accompagne la cruauté et qui lui permet de poser le regard du photographe au sens cette fois-ci où Baudelaire pourrait l'accepter. Jacques Dariula.
L'enfant est proche du mal en ce sens qu'il est proche de la bêtise aussi, c'est-à-dire qu'il est un regard essentiellement physique. Il est extraordinairement frémissant à la sollicitation des sensations. C'est-à-dire que Baudelaire parle parfois avec terreur de cette bêtise qui semble peser sur une humanité privée d'idéal, comme si peu à peu l'esprit devait être enlisé dans la matière. Mais en même temps, ce fait de voir le monde sans y penser, par pure avidité, une sorte de fin quasi physiologique de spectacle, permet à l'enfant de saisir l'intensité du réel avec une force dont est incapable un regard qui est chargé de spiritualité et de pensée. L'enfant boit le monde sans projeter entre le monde et lui l'écran protecteur de la pensée. En ce sens, l'œil de l'enfant écarquillé sur avide de spectacle, écarquillé sur le visible, ressemble beaucoup à l'objectif du photographe.
L'enfant, dit Baudelaire, pardonnez-moi, hein, voit tout en nouveauté, il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu'on appelle l'inspiration que la joie avec laquelle l'enfant absorbe la forme et la couleur.
Oui, il est ivre, ça veut dire qu'il est hors de lui, justement. Il ne voit pas le réel depuis l'intérieur méditant, depuis une subjectivité méditante et réfléchissante. Il est tout entier passionné. Il est tout entier, comme ce que nous disions du haschich, lorsque je deviens l'arbre, eh bien l'enfant devient le spectacle qui se déplace sous ses yeux, comme le photographe, et à l'affût du... Baudelaire parle de la poésie comme d'une escrime. Dans le spectacle mouvant du monde, le grand poète fait mouche sur l'instantané de la beauté. De même, l'art de l'instantané est comme une escrime. Un chasseur doit lancer la flèche. Henri Cartier-Bresson mettait en rapport la photographie avec l'art zen du lancer de l'archer, du lancer de la flèche. En un instant, il doit lancer la flèche sur la forme saisissante et saisie à la fois de la beauté.
On s'en tiendra là. Merci infiniment d'avoir passé cette semaine avec nous, cette semaine qui est en fait une matinée, hein, puisque l'auditeur doit savoir que ces émissions ont été enregistrées un peu avant, donc fatalement avant leur diffusion, le samedi 27 octobre au studio 134 de la Maison de Radio France. Alors, Jacques Dariula, j'aimerais mentionner l'existence d'un livre de vous sur Baudelaire, mais il n'y en a pas. En revanche, désormais, les internautes peuvent retrouver vos cours sur votre site internet www.jdariulat.net. J'espère que ça ne vous dissuadera pas d'en faire un jour un livre. C'est sur ce vœu pieux que s'achèvent les nouveaux chemins de la connaissance consacrés à Charles Baudelaire et en compagnie donc du philosophe Jacques Dariula. À la réalisation, c'était Mehdi Eladj, la technique Olivier Dupré, Geneviève Méric, Avril Ventura et Marion Richer ont comme toujours travaillé sans compter à la préparation de ces émissions. Merci à elles et merci enfin à Anne Brissier, dont la voix magnifique nous a accompagnés toute cette semaine. C'est de solitude que nous parlerons la semaine prochaine dans les nouveaux chemins de la connaissance. Hein, la solitude où le dialogue a une voix toute la semaine. Lundi, je recevrai Dominique Rabatté, professeur de littérature contemporaine à l'université de Bordeaux, qui sera d'ailleurs en duplex de Bordeaux, avec qui nous évoquerons la solitude en littérature, à propos notamment d'un numéro de la revue Modernité, le numéro 19, intitulé « L'invention du solitaire », est paru donc aux presses universitaires de Bordeaux. France Culture, il est 20h. Et tout de suite, on retrouve À Voix Nue sur France Culture.